Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
Votre avenir financier prend le pouvoir jusqu'à 18h. On va vous accompagner comme chaque après-midi pendant 3 heures au rythme des marchés. Les marchés qui digèrent cet après-midi un nouveau chiffre de l'inflation aux États-Unis. Stéphanie Collot nous en livrera le détail, mais on est sur un nouveau ralentissement de l'inflation. On va voir avec Étienne dans un instant, Étienne Brack depuis la Tour Euronext, comment les marchés réagissent donc à ce ralentissement supplémentaire aux États-Unis de l'inflation. Attention néanmoins, parce que si l'inflation a tendance à ralentir aux États-Unis et en Europe, c'est pas le cas au Japon où elle réaccélère. Il va falloir se méfier cette année d'éventuels resserrements monétaires de la part de la Banque du Japon. Ce sera vraiment à surveiller, ça risque de continuer d'inquiéter les investisseurs, même si ici en Occident, l'inflation tend à ralentir. On va aussi en parler avec nos experts, on vous expliquera pourquoi l'inflation japonaise pourrait nous impacter aussi et finir par impacter les marchés. Les publications des entreprises, ça avance, hein. 27% des entreprises du S&P 500 ont désormais publié leurs résultats. On va voir, on va vivre ensemble en direct l'ouverture d'Intel, notamment, qui sera à suivre après son warning. Intel attendu en très très forte baisse tout à l'heure à 15h30 pour l'ouverture de Wall Street. On sera sur place à New York, on rejoindra bien sûr Sabrina Quagliozzi, puis ici à Paris, c'est LVMH qui fait le plus parler. Étienne Brack sera donc avec nous dans un instant aussi pour revenir sur la réaction des marchés à la publication d'LVMH. Notez qu'Airbus souffre un petit peu, de plus en plus d'analystes, de brokers dégradent leur opinion en ce moment sur Airbus. On essaiera de comprendre pourquoi aussi avec nos experts tout au long de l'après-midi. Et puis si vous avez des questions sur l'ensemble de vos placements, vous savez que vous pouvez nous les envoyer sur notre adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Tout à l'heure, 15h20, Charlotte Tamer pour Yomoni répondra d'ailleurs à quelques-unes des questions que vous nous avez envoyé ces derniers jours. On est à vos côtés, on joue dans votre camp pendant 3 heures et tout de suite Stéphanie nous rejoint, donc Stéphanie Collot, pour parcourir l'ensemble de l'actualité économique du jour.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, c'est l'inflation américaine. Elle continue de ralentir en décembre à 5% sur un an, après une progression de 5,5% en novembre, selon l'indice PCE privilégié par la Fed. Par ailleurs, les revenus des ménages ont augmenté de 0,2%, un peu moins vite qu'en novembre, et leurs dépenses ont, elles, baissé de 0,2%. Toujours aux États-Unis, Chevron publie un bénéfice record de plus de 36 milliards de dollars pour 2022. C'est deux fois plus que l'an passé et c'est toutefois inférieur aux attentes. La major pétrolière va tripler son enveloppe allouée au rachat d'actions pour la porter à 75 milliards de dollars. En zone euro, il y a un coup de frein des crédits aux entreprises. Il y a eu moins de prêts en décembre pour le deuxième mois consécutif, mettant ainsi fin à la plus grande vague d'emprunt depuis plus de 10 ans, conséquence de la hausse des taux et des craintes de récession. En France, le moral des ménages est toujours très bas. Il a même encore un peu plus baissé en janvier, selon l'INSEE. Il reste toujours très loin de sa moyenne historique. En cause, l'inflation passée et à venir. Cette bonne nouvelle en Espagne, la croissance atteint 5,5% en 2022, tirée par la consommation des ménages et une forte hausse des investissements. C'est nettement supérieur à la prévision du gouvernement, qui anticipait 4,4% de croissance. Au chapitre des résultats en France, Rémy Cointreau publie un chiffre d'affaires en recul de 6% à 414 millions d'euros au troisième trimestre. C'est conforme aux attentes et c'est lié à une normalisation de la demande aux États-Unis après deux années de croissance exceptionnelle. H&M annonce un bénéfice net en chute de 68% en 2022 et une perte inattendue au quatrième trimestre de 77 millions d'euros. Le groupe est pénalisé par son retrait de Russie, la hausse des matières premières, mais aussi le prix du fret. Serge Papin est nommé administrateur indépendant du groupe Auchan. L'ancien patron de Système U explique entretenir depuis un petit moment de bonnes relations avec la famille Mullier. Son mandat court sur 4 ans. Et puis c'est un appel inédit à la grève chez Ubisoft. Les syndicats appellent les 6000 salariés français à cesser le travail cet après-midi pour dénoncer les pratiques managériales de la direction. Une première depuis la création du groupe, c'était en 1986, Guillaume.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Stéphanie. On va continuer de parcourir l'actu du jour en direct tout au long de l'après-midi. Aussi l'actu vue depuis la tour Euronext et les marchés. Étienne nous accompagne. Étienne Brac, vous l'apercevez si vous suivez sur l'application BFM Business ou encore en direct à la télévision. Bonjour Étienne, ravi de vous retrouver. On est en petite baisse cet après-midi en Europe.
Petite baisse, un CAC 40 qui souffle après la très belle performance que l'on a pu voir ces derniers jours, ces dernières semaines, hein, puisque malgré la baisse de 0,3% aujourd'hui, on gagne toujours plus de 9% depuis le début de l'année, toujours au-delà des 7000 points, 7072 points, séance qui est bien sûr drivée par LVMH, hein, puisque ce matin on avait un titre qui perdait quasiment 2%, donc forcément avec une pondération de 13%, ça pèse sur le CAC 40. Et puis dans le même temps, là, il y a un peu plus d'une demi-heure, on a eu les chiffres d'inflation aux États-Unis avec une inflation core PCE, hein, c'est l'inflation qui est particulièrement scrutée par la Fed, qui est ressortie plus ou moins conforme aux attentes. Hein. Comme attendu, on a une inflation qui est ralentie au mois de décembre. Donc on voit que ce soit du côté de LVMH, du côté de l'inflation, tout ça c'est anticipé par le marché. Donc il n'y a pas trop de réaction aujourd'hui. À noter que vous avez un marché obligataire qui remonte aujourd'hui, puisque vous avez un 10 ans américain qui prend 5 points de base à 2,53. Un 10 ans français qui prend 3 points de base à 2,70. Donc ça, ça profite au secteur bancaire. Vous avez typiquement Société Générale qui affiche la plus forte hausse de l'indice parisien avec un gain de plus de 4% aujourd'hui. Et puis, à noter que vous avez le secteur des spiritueux avec notamment Rémy Cointreau qui a publié ses résultats. Ça pèse sur Pernod Ricard, moins 2,7% aujourd'hui à 182 euros. Quand Rémy Cointreau perd 3,3% à 168 euros, c'est l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120. Et puis, la plus forte baisse du CAC 40 aujourd'hui, c'est Airbus, moins 3,3% à 116 euros. Après, notamment, plusieurs avis de brokers, hein, dont notamment Jefferies qui abaisse sa recommandation à conserver contre acheter précédemment. Donc tout ça, ça pèse à court terme sur ce titre. Et à noter les matières premières qui continuent de grimper avec la réouverture chinoise, avec un baril de pétrole qui gagne plus d'1% cet après-midi et qui se rapproche des 89 dollars.
Thierry Gauthier nous accompagne pour GSD Gestion. Bonjour Thierry.
Vous allez, bonjour,
dire, vous allez nous dire, Thierry, ce qu'il faut faire justement de ces réactions de marché aux différentes publications. À l'instant même, Étienne nous parlait de Rémy Cointreau et ce titre qui réagit donc à la baisse, moins 3,3%, parce que peut-être Rémy Cointreau n'a pas relevé ses prévisions. C'est peut-être ça, donc qui déçoit le marché aussi. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui, malgré la réouverture en Chine, malgré les bonnes surprises macroéconomiques actuelles, ne relèveront pas leurs prévisions, seront forcément sanctionnées?
Et oui, sur Rémy Cointreau, c'est bien possible que ce soit le cas, parce que d'autant que le management a indiqué que la Chine, hein, qui représente plus de 20% de son chiffre d'affaires à Rémy Cointreau, poursuivait sa reprise avec des ventes en amont du nouvel an chinois qui était qualifié de très très forte. Et donc malgré cette qualification de très très forte sur les ventes en Chine, dans le cadre, voilà, de ce nouvel an chinois, hein, qui va être un relais pour 2023, eh bien, il n'y a pas eu de relèvement des prévisions, et le management n'a fait que confirmer ses perspectives. Donc il n'y a pas eu de, voilà, de glissement, on va dire, sémantique vers une amélioration. Donc voilà, c'est ça qui pèse aujourd'hui sur le cours de Rémy Cointreau, qui, rappelons-le, est quand même une valeur, hein, qui se paye plus de 30 fois les profits. Donc ben voilà, pour justifier des ratios de valorisation comme là, il faut des messages de croissance. Alors voilà, c'est pas le cas, hein, puisque sur le T3, il faut rappeler que Rémy Cointreau, ils ont un exercice décalé, hein, donc le T3 c'est octobre à décembre 2022, et ben c'est ressorti alors un petit peu mieux que les attentes, parce qu'on attendait le consensus moins 7%, et puis ça ressort en baisse organique de 6%, donc ça c'était presque une demi bonne nouvelle, mais voilà, c'est quand même de la baisse. Et puis quand on compare aux autres mastodontes du luxe qui affichent encore des croissances, ben voilà, ça souffre déjà un petit peu de la comparaison, et ça souffre aussi, vous avez raison, de l'absence de relèvement de guidance.
Du coup, ce titre Rémy Cointreau, vous avez envie de l'acheter en profitant de la baisse du jour, ou vous accompagnez la baisse, Thierry?
Non, on n'a pas d'avis spécifique sur Rémy Cointreau. Sur des niveaux au-dessus de 30 fois les profits, on trouve que le titre est vraiment très correctement valorisé, donc on n'est pas encore à l'achat.
Et vous citiez, alors, au-delà de Rémy Cointreau, l'ensemble du secteur du luxe, intéressant de le suivre après cette publication record à nouveau hier soir d'LVMH. On l'a d'ailleurs vécu ici en direct dans BFM Bourse, la publication des chiffres 2022 d'LVMH. On les a vus, ces chiffres s'égrenaient et on hallucinait. Mais enfin, la réaction de marché et pas gigantesque, hein, pas aussi gigantesque que les résultats. Il y a peut-être un doute d'ailleurs. Citi émet un doute sur les marges à venir d'LVMH, ce titre LVMH qui, tout à l'heure, a battu un nouveau record historique depuis, freine et est en léger repli désormais, Thierry.
Oui, alors après, c'est un petit peu dans le sillage aussi du marché qui n'est pas très haussier aujourd'hui. Et oui, c'est du côté des marges, s'il fallait peut-être dans la présentation des... C'est au niveau des marges, où c'est un petit peu en dessous le consensus. Hein. Les analystes étaient autour de 27,5%, 28% de marge attendue. Et ça ressort plutôt autour à 26,6%. Donc c'est un petit peu en deçà. Le résultat net par du groupe, il ressort au-dessus de 14 milliards. C'est pharaonique, mais voilà, le consensus était autour de 14,2, 14,3. Donc ben voilà, c'était cette histoire de marge hein, qui est un petit peu déçue. Alors pourquoi ? C'est parce que le groupe a aussi investi beaucoup en marketing en amont de la reprise en Chine. Donc ben, c'est beaucoup de dépenses et pas encore de revenus, puisqu'évidemment la Chine se réouvre petit à petit. Mais voilà, le groupe, pour le coup, reste très très confiant et voit déjà un fort rebond à Macao, hein, disent-ils, en termes de vente. Et puis, il faut rappeler que le groupe voit que l'affluence dans les grandes villes en Chine est toujours 30 ou 40% du niveau pré-Covid. Donc, ça nous dit que LVMH en a encore un pied. Et puis qu'ils ont investi en amont de cette réouverture. Donc oui, c'est un petit peu posé sur les marges à court terme, mais vraiment, c'est pour chercher la petite bête. LVMH, en 4-5 ans, c'est des ventes multipliées par 2, c'est des profits multipliés par 3. Donc ben, voilà, il y a une logique complète à ce que le cours a été multiplié par 3 aussi sur cette période de 4-5 ans.
Est-ce que vous achetez LVMH ou est-ce que vous privilégiez d'autres valeurs du luxe ? Je vous pose la question parce qu'on a cette auditrice, elle s'appelle Ambre, qui nous envoie cette question. Faut-il dans le luxe privilégier les valeurs les plus chères comme LVMH ou au contraire les moins chères du secteur ?
Alors LVMH dans le luxe, c'est pas la plus chère déjà. Il faut bien voir que la moyenne du luxe, c'est autour de 27-28 fois les profits et LVMH, c'est que 25 fois. Alors oui, c'est quand même relativement cher. Mais comparativement à la qualité des actifs du groupe, c'est même un peu en dessous de la moyenne des sociétés du luxe. Donc LVMH serait une de nos préférées dans le luxe, les plus chères étant Hermès ou Ferragamo, hein, qui se paye 40 ou 45 fois les profits. Et puis voilà, donc LVMH autour de 25 fois, c'est même un peu moins cher que des Prada ou Moncler qui se payent 30 fois. Et voilà, c'est évidemment un peu plus cher en revanche que du Kering qui se paye 17 fois, mais qui n'a pas la même histoire de croissance. On l'a vu avec les chiffres de Gucci l'an passé, mais peut-être est-ce un pari sur l'avenir. Donc entre du Kering qui pourrait voir un redressement de Gucci et puis un démarrage en trombe, on l'a vu dans les derniers chiffres aussi de Saint Laurent qui pourrait être porté par ça. Ça c'est peut-être un petit achat à faire en portefeuille. Et puis LVMH, parmi le luxe, c'est encore la moins chère, Guillaume, malgré la hausse.
Oui, incroyable. Il en reste peut-être encore donc pour continuer d'acheter LVMH. On va continuer d'en parler. Vous restez avec nous, Thierry. On reviendra dans un instant aussi sur JC Deco, une belle hausse aujourd'hui. Et puis, pour élargir le spectre, élargir notre horizon d'investissement, Étienne nous accompagne. Vous nous alertez aujourd'hui, Étienne, sur ce titre Vestas. Vestas qui fait face, c'est le cas de le dire, Étienne, à des vents contraires.
Eh oui, avec des vents contraires, puisque c'est le numéro 1 mondial de l'éolien. Ça se passe du côté du Danemark, à Copenhague. 26 milliards d'euros de capitalisation en bourse. Alors vous allez me dire, c'est un secteur très porteur. On est dans le secteur des renouvelables. On a des plans de relance dans tous les pays. On a également, aujourd'hui, des gouvernements qui souhaitent mettre plus de renouvelables dans leur mix énergétique. Et là, quand vous regardez Vestas aujourd'hui, ils sont particulièrement prudents. Déjà, ils vous disent que l'année 2023 sera moins bonne que l'année 2022 et qu'au quatrième trimestre de l'année 2022, vous avez un nombre limité de projets qui se sont mis en place. Alors pour justifier cet investissement sur résultat, vous avez Vestas qui met en avant l'inflation, parce que bien sûr pour construire des éoliennes il faut des métaux. Vous avez le contexte macroéconomique, le contexte géopolitique également qui est incertain, et puis surtout quand vous décidez de mettre des éoliennes en mer ou sur terre, ça prend des mois, voire même parfois des années avec les appels d'offres, les procédures, etc. Donc l'année 2023 ne sera pas une année record pour Vestas avant un redémarrage en 2024, et ça le marché apprécie moyennement puisque vous avez un titre qui perd plus de 3% du côté du Danemark.
Effectivement, Thierry, dernière question, JC Deco, l'une des autres valeurs à suivre aujourd'hui, plus 2,5% après sa publication. On a un relèvement d'opinion d'ailleurs aujourd'hui de Barclays à surpondérer sur JC Deco, vraiment en 30 secondes. Vous êtes aussi à l'achat, vous avez envie de renforcer JC Deco dans vos portefeuilles?
C'est clairement un pari sur la réouverture de la Chine, hein, de par leur exposition. C'est un business où il y a beaucoup de coûts fixes, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils annoncent des hausses de chiffre d'affaires, c'est de la marge qui rentre. maintenant entre 20 et 25 fois les profits. On a plutôt envie d'attendre la présentation des résultats, parce que là c'était que le chiffre d'affaires, hein, de 2022, pour voir s'ils en ont encore un petit peu sous le pied. Mmh. Parce que voilà, la hausse récente du titre, hein, qui a doublé en quelques mois, fait que ce pari sur la réouverture de la Chine, il commence à être pas mal joué.
Merci Thierry, on vous retrouvera tout à l'heure un peu plus tard dans l'émission. GSD Gestion régulièrement à nos côtés. Et puis n'oubliez pas, dans quoi, 20 minutes, valeur ajoutée, 20 grosses minutes, une idée de valeur en plus. Si vous souhaitez compléter vos portefeuilles boursiers, on rejoindra les experts de Gay-Lussac Gestion qui seront aussi à nos côtés. On essaie de vous être les plus pratiques et utiles possibles chaque après-midi sur BFM Business. Le CAC 40 est en petite baisse après les chiffres d'inflation encourageant pourtant aux États-Unis. On a un nouveau ralentissement là-bas de l'inflation, mais le CAC recule quand même de 0,27%. Puis on suivra Wall Street, l'ouverture dans maintenant 14 minutes et 28 secondes. Wall Street, on sera à New York pour notamment voir comment Intel se portera dans les premiers échanges. Le titre est attendu en très net repli après son warning d'hier soir.
BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.
Et c'est Paul Chollet qui nous accompagne, économiste senior au Crédit Mutuel Arkéa, membre du comité stratégique de BSI Economics. Bonjour Paul.
On est
ravi de vous retrouver. Et donc ce nouveau ralentissement de l'inflation aux États-Unis, même l'indice core PCE que suit particulièrement la Réserve fédérale américaine, recule. En tout cas, le ralentissement des prix se confirme.
Ben oui, c'est ça. L'indice core donc progresse sur un mois de 0,3% et maintenant sur un an on est à 4,4%. C'était 4,7% le mois dernier. Donc on voit bien que l'inflation ralentit progressivement, et c'est évidemment ce que recherche la Réserve fédérale. Je le rappelle, hein, mais sur cet indice core, la Réserve fédérale, au quatrième trimestre 2023, estime qu'on aura une progression des prix de 3,5%. Donc avec ce 4,4, eh bien, un an auparavant, eh bien, on est plutôt sur une dynamique qui devrait rassurer le marché. Et d'ailleurs, la dynamique du consommateur, hein, qui est ressortie en parallèle pour le mois de décembre, eh bien, elle décline de 0,2%. Donc on a le sentiment que la consommation commence à freiner aux États-Unis. D'ailleurs, il y a une semaine, on a vu les ventes au détail qui, elles aussi, avaient baissé de 1,1% en décembre par rapport au mois précédent. Donc le sentiment, c'est que le consommateur, eh bien, est moins là qu'il ne l'était. Et forcément, si la demande commence à reculer, la pression inflationniste d'elle-même va baisser.
Bon, et le marché parie sur une hausse de taux finalement un peu plus limitée. On passerait de 50 à 25 points de base la semaine prochaine du côté de la Réserve fédérale américaine, qu'on suivra le lendemain, le jeudi 2 février. Ce sera le jour de la Chandeleur, mais surtout la Banque Centrale Européenne, elle aussi en ce 2 février, le lendemain de la Fed, annoncera son choix de politique monétaire. Alors Christine Lagarde s'est d'ailleurs exprimée tout à l'heure. Quelles sont vos attentes sur cette prochaine réunion de la BCE? Est-ce qu'à votre avis, cette réunion pourrait être le facteur déclenchant d'une nouvelle hausse de l'euro? Pourquoi pas, Paul, au-dessus d'1,10 $?
Alors l'euro, justement, on pense qu'il y a une petite fenêtre entre les deux réunions de politique monétaire pour qu'il s'apprécie jusqu'à 1,10 $, mais ça ne devrait pas durer. Alors pourquoi? Parce que du côté de la Réserve fédérale, comme je viens de le souligner, la demande finalement commence à être de moins en moins soutenue et in fine l'inflation décline. Donc on pense que la Réserve fédérale va faire 20 points de base de hausse la semaine prochaine, et selon notre scénario, celui du Crédit Mutuel Arkéa, eh bien, ça serait la dernière hausse de la Réserve fédérale. Ce qui veut dire que la Banque Centrale Européenne, si je puis dire, va être délestée de ce poids de devoir en faire au moins autant que la Réserve fédérale pour que l'euro ne se déprécie pas. Et donc, ça signifie qu'à partir de jeudi prochain, la Banque Centrale Européenne sera plus libre. Donc, quelle va être sa politique, quelle va être sa décision de politique monétaire? Nous, on pense une hausse de 50 points de base, hein, c'est vraiment ce qu'il y a dans le marché. Mais probablement qu'ensuite, au mois de mars, eh bien, elle aussi ralentirait son rythme de hausse de taux à 25 points de base, puisque en face, la Fed aurait arrêté. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur le très court terme, eh bien, l'euro peut s'apprécier, puisque la Fed parlera en premier, si je puis dire, mais le lendemain, la BCE, à son tour, devrait se montrer très, très data-dépendante, donc laisser la porte ouverte à une hausse seulement de 25 points de base pour la réunion suivante, auquel cas, eh bien, l'euro assez rapidement se réajusterait à peu près sur les niveaux actuels. À mon avis, il faudra plutôt attendre le deuxième semestre de cette année pour voir un euro qui de nouveau s'apprécie relativement fortement face au dollar.
Actuellement, l'euro vaut 1,0856 $. On n'oublie pas quand même le Japon. Oui, c'est loin, le Japon, mais les choix de politique monétaire de la Banque du Japon pourraient éclabousser l'ensemble du marché mondial de la dette. Ce matin, on a vu une inflation au Japon en nette hausse à plus de 4%, 4,4%. C'est supérieur aux attentes sur un an, plus 4,4% les prix à la consommation. Est-ce que 2023 sera l'année du début du resserrement monétaire aussi au Japon? Et si oui, est-ce que du coup nos taux, même si la Fed et la BCE ralentissent leur hausse de taux, est-ce que nos taux risqueraient de se retendre si la Banque du Japon à son tour resserre sa politique, Paul?
Bah écoutez, on n'est pas certain que la Banque du Japon resserre sa politique monétaire. C'est le sujet du marché. En tous les cas, même s'il est assez loin de nous, il se trouve que oui, l'économie japonaise fait face à de l'inflation qui progresse, elle aussi, mois après mois. Et d'ailleurs, c'est la dernière, hein, c'est la seule qui continue de progresser, puisque à l'image de la réserve, enfin des États-Unis ou de la zone euro, eh bien dans nos économies, l'inflation a commencé à atteindre, disons, son pic. C'est pas le cas du Japon. Il se trouve que le premier ministre, monsieur Kishida, a de nouveau ce matin martelé que l'inflation était transitoire, qu'on ne voyait pas de hausse de salaire à ce stade. Et il a rappelé d'ailleurs que certes, du côté des travailleurs non réguliers, donc c'est ceux qui ont un contrat plutôt à temps partiel ou les intermittents, bah là on a des hausses de salaire. Ça représente à peu près 40% de la main d'œuvre, mais sur les 60% restants, on n'a pas de hausse de salaire. Donc finalement, il semble qu'à ce stade, au niveau japonais, on a encore un relatif consensus pour continuer à être l'unique économie avancée, si je puis dire, à maintenir une politique monétaire. Voilà, il faudra probablement attendre la succession de Kuroda, hein, qui va donc le président de la Banque du Japon, qui va trouver son successeur à la fin de mars. Et donc, probablement, qu'au mois de juin, il faudra laisser à son successeur, qui a quand même quelques mois pour modifier cette politique monétaire, probablement qu'au mois de juin, on pourrait avoir un changement de politique monétaire au Japon. Mais c'est encore loin d'être sûr, parce que pour le coup, au mois de juin, on anticipe que pour le reste de la planète, l'inflation va commencer à redescendre. Et probablement, du coup, qu'au Japon, on verra aussi des effets de second tour plutôt négatifs, si je puis dire, pour l'inflation, et donc positifs pour la BOJ, avec une inflation qui commence à reculer aussi au Japon.
Merci, Paul. Paul Chollet avec nous, Crédit Mutuel Arkéa, régulièrement à nos côtés. Et cette banque du Japon qu'il faudra suivre, qui sera intéressante à regarder en effet cette année. Le CAC 40 est toujours en légère baisse, moins 0,29%, 7075 points. Et dans 10 minutes, 9 minutes même, on sera à New York pour les premiers échanges américains.
BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions.
Oui, chaque vendredi à cette heure-ci, vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts, vos questions sur notre adresse que vous connaissez désormais, bfmbourse@bfmbusiness.fr. Charlotte Tamer vient de nous rejoindre pour tenter de répondre à vos interrogations. Bonjour Charlotte.
Bonjour Guillaume.
Et merci de vous prêter au jeu régulièrement sur notre antenne, directrice conseil chez Yomoni. Charlotte, êtes-vous prête?
Je suis prête.
C'est parti. Magali nous écrit, après avoir connu une année mouvementée, le marché obligataire, nous dit Magali, semble plutôt porteur en ce début d'année. Un grand nombre de fonds à échéance voient le jour depuis quelques semaines. Quels sont les bons réflexes pour investir en obligations?
Alors effectivement, il y a eu ce qu'on appelle un krach obligataire en 2022, qui est un événement assez rare sur les marchés financiers. La bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours du positif à tirer des événements de marché, c'est que pour les gens qui sont déjà investis, la recommandation quand vous êtes investi en obligations non garanties en capital, donc on parle généralement soit d'OAT, l'obligation, l'emprunt d'État, soit de high yield, les sociétés privées cotées de double B à triple C, hein, d'accord, des sociétés qui émettent de la dette auprès des particuliers plus risqués. En fait, quand vous investissez en obligations, il y a une stratégie qu'il faut conserver, qui est la stratégie dite de portage. Donc effectivement, les obligations, elles ont baissé en valeur nominale, en valeur faciale, parce que les taux ont augmenté. La bonne nouvelle, c'est que le coupon qui est associé à cette dette, lui, a augmenté. Donc on arrive enfin sur des obligations qui deviennent rentables, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Mais si vous maintenez votre stratégie de portage, c'est-à-dire que si vous ne cédez pas à la tentation de regarder la valeur nominale de votre obligation et de dire je vends parce que c'est plus très avantageux, et si vous gardez le portage jusqu'au terme de la dette, jusqu'au terme échu, eh bien en fait la société émettrice de l'emprunt va vous rendre la valeur initiale du nominal. Donc au final, cette baisse du nominal que vous voyez apparente, elle n'est qu'apparente, et donc il faut conserver vos titres. Et puis si vous êtes en phase d'investissement, eh bien effectivement, comme le nominal des obligations a plutôt décoté ces derniers mois, ça peut être opportun de rentrer sur le marché obligataire, d'une part parce que les coupons sont plus rentables, donc on arrive sur une rentabilité qui cette fois-ci devient plus corrélé à la réalité et plus acceptable hein, pour un investisseur. Et puis, il y a toujours ce jeu de nominal qui pourra créer un effet de perf supplémentaire à échéance.
Ça tient, ce scénario tient. Si les taux ne repartent pas la hausse, les taux des banques centrales ne réaccélèrent pas la hausse, et les taux de marché
évidemment,
aussi.
Guillaume, on part dans une expectative où on se dit que les taux directeurs ne repartent pas la hausse. Mais je crois qu'il y a quelques minutes de ça, on disait que l'inflation devait se restabiliser. Donc, je pense qu'on est plutôt raccord sur la stratégie obligataire à mener en 2023.
Voilà, Magali, les fonds à échéance, qu'on appelle aussi fonds datés ou fonds à horizon.
Tout à fait.
Bref, les fonds obligataires, accessibles d'ailleurs aussi aux particuliers.
C'est vrai qu'il y a une opportunité de marché en ce début d'année sur le sujet.
Exactement. Joël aussi nous écrit, en pleine réforme des retraites, si je fais partie des générations impactées, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation personnelle? Est-ce que le plan d'épargne retraite, le PER, est la meilleure option en termes de placement pour préparer ma future retraite?
Alors, la capitalisation au sens large, c'est-à-dire le fait d'épargner à titre individuel pour sa retraite, reste une des meilleures options, puisqu'on le sait, sur la durée, une des catégories, une des classes d'actifs les plus rentables reste les actions. Après, le plan d'épargne retraite, en tant que tel, reste une excellente solution si vous avez une tranche marginale entre 30 et 40%. On sait que plus, en fait, le PER permet le crédit d'impôt, donc ça va venir booster votre effort de capitalisation, votre effort d'épargne. Et en fait, comme on est quand même sur un placement qui va montrer des limites en termes de liquidité, il faut quand même que le crédit d'impôt soit en adéquation avec cette liquidité moindre que d'autres enveloppes proposent. Mais vous pouvez tout à fait investir pour votre retraite sur l'assurance vie, sur le PEA, sur le compte titre, voire même sur les SCPI, en immobilier. Toute forme de capitalisation en fait est bonne pour venir suppléer si vous voulez partir au même âge que ce qui devait être précédemment décidé, ou si vous voulez partir de manière anticipée, tout simplement.
Le PER, parmi les nombreuses options pour préparer sa retraite, voilà. Sachant qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais le premier placement, le premier choix des Français pour préparer leur retraite, c'est l'immobilier aussi.
Aussi.
Raoul nous écrit. Alors Raoul, il n'a pas l'air content. En tout cas, il a l'air sûr de lui. Voilà, on va plutôt le dire comme ça. Okay. On va citer sa remarque qu'il nous a envoyée lui aussi. Le rendement du livret A remonte à 3%. On va remonter à 3%, nous dit Raoul. Le rendement du fonds euro remonte aussi. Moi, vous pouvez me conseiller ce que vous voulez. J'estime qu'on va de plus en plus pouvoir investir sans risque avec des rendements de plus en plus attractifs. Ah, il n'a pas tort. Le livret A voit son rendement progresser, le fonds euro aussi.
Tout dépend de l'horizon de placement de Raoul, je dirais. Alors déjà, si on doit privilégier un placement sans risque et plutôt à court terme, j'aurais plutôt tendance à dire livret A plus que fonds euro. Alors après, ça dépend parce que le livret A est quand même plafonné. Mais c'est vrai que le livret A est remonté plus vite, a été plus rapidement indexé à l'inflation que le fonds euro. Et ça, c'est lié à des fonctionnements internes aux produits, hein, chaque produit à part entière. Et ensuite, si vous êtes à court terme, on a fait un petit calcul avant de venir pour répondre aux questions. Si vous placez 25 000 euros, qui est globalement le plafond du livret A, vous le placez pendant 40 ans à 3%, vous finissez avec une somme de 75 000 euros, ce qui est plutôt pas mal puisque vous faites trois fois votre mise. Mais si vous investissez la même somme d'argent, 25 000 euros, sur un taux de rendement à 7%, qui est la performance annuelle lissée du marché international, action internationale sur les 30 dernières années, eh bien, sur la même durée, vous finissez avec un capital de 350 000 euros. Donc, il faut à la fois prendre en compte votre horizon de placement. Plus il est lointain, plus vous pouvez vous permettre de vous exposer au risque. Qui dit risque dit rendement en face, hein. C'est jamais le risque isolé et voilà. Mais si vous pouvez vous le permettre, si votre horizon de placement vous le permet, et si votre aversion, votre appétence au risque vous le permet également, eh bien on a plutôt tendance à dire il faut adapter son placement à son horizon de placement.
Voilà, en tenant compte aussi quand même de la fiscalité.
Bien évidemment, mais même avec actions, fiscalité, je pense qu'on s'en sort mieux. Même sur un bon compte titre, je pense qu'on s'en sort mieux sur le MSCI sur 40 ans.
Charlotte Tanner avec nous pour Yomoni, directrice conseil pour Yomoni. Merci Charlotte d'être venue
Merci
nous voir.
Merci Guillaume.
Et n'hésitez pas, vous qui nous suivez, à nous envoyer régulièrement vos questions sur notre adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Dans un instant, on sera à New York, l'ouverture de Wall Street à vivre en direct sur BFM Business. Comme chaque après-midi, on va rejoindre Sabrina Quagliozzi et on se demande quelle sera l'ampleur notamment de la baisse d'Intel après son warning d'hier soir. Réponse dans un instant. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
15h30, on est ensemble en direct, c'est l'ouverture sur place là-bas à New York, on s'y rend tout de suite. On va traverser l'Atlantique et retrouver en effet notre correspondante Sabrina Quagliozzi. La cloche vient de retentir, Sabrina, on est ravis de vous retrouver, bonjour à vous, il est 9h30 du matin chez vous à New York. Comment se passe cette ouverture?
Ah bah écoutez, c'est le rouge qui l'emporte. Petite baisse à Wall Street à l'ouverture. après les résultats d'Intel, on y revient dans quelques instants, bien sûr, le choc Intel des marchés qui sont néanmoins en hausse sur l'ensemble de la semaine et sur l'ensemble de ce mois de janvier, avec bien sûr des marchés hier qui ont enregistré une belle séance dans le sillage à publication des chiffres de la croissance qui...
Tiens.
Douceur de cette économie américaine, même si les craintes de récession persistent. On a eu aujourd'hui des données, les dépenses des ménages, en baisse de 0,2% sur le mois de décembre. Mauvaise nouvelle de ce côté-là, les revenus plus 0,2%, la composante inflation, le core PCE, ce qui est l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine, on est sur une hausse de 4,4% sur un an et de 0,3% en glissement mensuel. Encore une fois, le core PCE, l'indice de base, avec encore beaucoup de résultats d'entreprise, donc aujourd'hui et avant beaucoup de publication la semaine prochaine. On aura notamment Meta, Amazon, parmi les autres publications, Apple, General Motors, Ford également, encore Starbucks et McDonald's. Et des marchés donc qui ouvrent la séance sur une note légèrement négative. En tout cas pour le S&P 500 qui se maintient au-dessus des 4000, plus moins 0,34%, 4061 points ce matin à l'ouverture. Le Nasdaq de son côté perd 0,6%. On est à 14%, on est à 11 496 points. En revanche, pour le Dow Jones, on est quasi inchangé avec un pied en positif, 33 973 points sur l'indice Dow Jones. Donc on verra bien sûr comment ces marchés évoluent tout au long de la séance. Mais pour le moment, petite forme ce matin à l'ouverture sur ces marchés américains.
Petite forme, mais alors, comparé au titre Intel, les indices américains rayonnent. Intel plonge littéralement à l'ouverture, Sabrina.
Ouh là là, c'était brutal. Hier soir, après la clôture, il n'y a rien de bon de cette publication pour Intel. Les résultats, les marges, les revenus... pas grand-chose, vraiment pas terrible du tout. Ça a des chiffres qui ont pris le marché et la communauté financière par surprise. Les revenus, si on regarde dans le détail, se sont effondrés de 32%, perte de 644 millions de dollars sur le trimestre écoulé. C'est en plus le quatrième trimestre d'affilée de baisse des revenus. Le géant des semi-conducteurs a du mal à gérer toujours l'effondrement de la demande en PC. Il n'y a pas que ça, concurrence féroce également dans ce secteur. Et puis une économie compliquée. Pas de prévision pour l'ensemble de l'exercice de 2023. On sait juste qu'il s'attend à des pertes de nouveau pour le trimestre en cours. Bref, pas un super bilan là pour Pat Gelsinger qui a repris les rênes d'Intel il n'y a pas longtemps, en 2021. Si on regarde les commentaires d'analystes, il n'y a pas de mots, nous dit un analyste en voyant cette publication. C'est juste la cata, c'est le choc, c'est brutal. Réaction à Wall Street, on est sur une baisse de plus de 10% à l'ouverture Intel qui est à 26,96 $, qui entraîne dans son sillage les autres valeurs du secteur. Vous avez AMD qui perd 1,5% à l'ouverture, Nvidia de son côté perd 0,7%. Autre déception, Guillaume, aujourd'hui, alors dans un tout autre secteur, le secteur des jouets. Pas d'effet de fête de fin d'année sur Hasbro, qui doit publier ses résultats trimestriels le 16 février dernier, mais qui tire d'ores et déjà la sonnette d'alarme. Attention, les résultats ne seront pas bons. Le groupe s'attend à une baisse de 17% de son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé. Il annonce parallèlement des licenciements, 15% des effectifs, ça correspond à 1000 emplois. Le titre Hasbro perd 4,5%. Alors, il y a quand même quelques publications bien accueillies et surtout American Express qui a publié des résultats corrects, un petit peu inférieurs aux attentes sur le trimestre écoulé, mais qui se montre très confiant pour cette année avec des prévisions solides et un marché clairement qui applaudit. American Express prend 7,5% actuellement. Et puis Chevron qui a publié des chiffres un petit peu justes sur le trimestre écoulé, mais des prévisions supérieures supérieur aux attentes. Alors, le titre est en baisse. Chevron recule de 3%, mais il a bien grimpé hier en séance dans le sillage de l'annonce d'un programme, d'un gros programme de rachat d'actions et d'une augmentation de son dividende. Chevron, qui ce matin perd un petit peu plus de 3% à l'ouverture dans un marché. Guillaume, qui est en léger repli ce matin à l'ouverture. On est quasi inchangé sur l'indice Dow Jones, 33 954 points. Le S&P 500, moins 0,15%. Le Nasdaq, quasi inchangé désormais, 11 506 points. On sent que le marché là veut pousser. En tout cas, on est en hausse sur l'ensemble de la semaine, encore une fois, et en hausse depuis le début de l'année.
Effectivement, Sabrina, merci. Vous nous accompagnez tout au long de cette séance américaine. Les indices US en toute petite baisse. En Europe, pareil, on préserve l'essentiel des gains accumulés ces dernières semaines. Largement même, on est toujours proche des 7100 points à Paris, 7079. Notez Solution 30, le titre gagne 20%, plus 20% Solution 30 aujourd'hui, après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 11,5%, 11,6% même pour être très précis au quatrième trimestre. Et pour la suite, Solution 30 estime que ses prises de commandes sur l'exercice atteignent un niveau historiquement élevé, 920 millions d'euros, donc de quoi nourrir le chiffre d'affaires à venir. Et ce titre en hausse de plus de 20%, c'est la valeur à suivre particulièrement aujourd'hui. Parmi les autres valeurs, bien sûr LVMH qui a battu un nouveau record historique tout à l'heure. Bon, depuis on subit quelques petites prises de bénéfices quand même sur LVMH qui, comme Hermès, a tout à l'heure touché un plus haut jamais vu. Actuellement, LVMH repart un peu à la baisse, finalement, moins 0,7% à un peu plus de 795 euros.
BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché.
La sensation de l'après-midi, Intel. Charles Monod vient de nous rejoindre. On va parler des publications, en effet, qui commencent à véritablement accélérer. Celle d'Intel qui fait l'effet d'une douche froide. On perd 10% sur Intel en ce moment à Wall Street. Sabrina nous le disait. Charles Monod avec nous. Donc, bonjour Charles.
Bienvenue. Bonjour Guillaume.
Président de Monocle Asset Management. Intel, cas isolé ou prédictif pour la suite? Comment est-ce que vous regardez cette publication?
Les deux, Intel, c'est à la fois un cas isolé. Pat Gelsinger, son CEO, qui est revenu la redresser. C'est quelqu'un d'un peu particulier. Il est très religieux. Il était interviewé il y a 10 ans. Il n'était pas encore patron d'Intel. Il bossait déjà chez Intel. On lui disait à la fin, il parlait de sa foi. Il disait, je suis payé par Intel, mais je travaille pour Dieu. Donc je pense qu'en ce moment, il prie beaucoup, parce qu'il a quand même beaucoup, beaucoup de mal à redresser la barre. Donc vous avez des problèmes qui sont, je pense, spécifiques à Intel. On connaît bien l'action parce qu'on s'est pris une claque assez importante dessus l'année dernière. Mais on était sorti en fin d'année parce qu'on avait peur de ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, pour répondre à votre question, je pense que c'est deux choses. Il y a à la fois les problèmes d'Intel, mais il y a aussi eu un espèce de boom énorme sur l'ensemble des demandes liées au Covid quand tout le monde s'est équipé en PC. Il y a un chiffre qui va peut-être vous parler. Les ventes de Windows Microsoft, dans les résultats annoncés la semaine dernière, c'est moins 37% d'une année sur l'autre. Donc vous avez eu ce même effet d'un afflux de commandes énorme en 2021, et une fois que tout le monde s'est équipé, ben les gens ne s'équipent plus. Alors ça s'additionne aux autres problèmes d'Intel. En plus, la situation est pire que ce qu'on voit devant, parce qu'ils viennent de modifier les règles comptables, et ces pertes seraient beaucoup plus importantes sans ça. Il y a 4 milliards qui sont économisés quelque part de pertes par un trait de crayon sur l'année, parce qu'ils augmentent leur durée de dépréciation de 5 ans à 8 ans. Donc la situation est effectivement noire. Stratégiquement, sur le long terme, on peut pas tous dépendre, parce que tout l'Occident peut pas dépendre de TSMC et de Samsung, c'est-à-dire des deux seuls autres producteurs de processeurs qui sont en Asie. Géopolitiquement, ça n'a pas de sens. Donc à un moment, Intel devra sortir du lot. C'est le seul qui puisse le faire. Mais pour l'instant, c'est sûr que ça va être difficile et Gelsinger a l'air d'avoir beaucoup de mal à redresser la barre. Il y a un point encore. J'ai lu ça rapidement hier soir, mais je crois que sur leurs prévisions pour le marché des ventes de PC cette année, ils n'ont pas baissé. Donc il y a encore de l'optimisme là-dedans, c'est-à-dire que toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas forcément sorties.
D'accord, mais ils pourraient à terme bénéficier, on va dire, de la division croissante géopolitique du monde et pourquoi ouais. pas, du coup, bénéficier de ce rôle de fournisseur prioritaire pour Exactement. Les marchés occidentaux, européens et américains en microprocesseurs.
Exactement. Donc il y a un moment où ça va être plus haut, mais de combien on va baisser jusque-là, c'est ça qui est assez compliqué à estimer.
Intel perd 10% en ce moment à Wall Street. Et désormais, plus d'un quart du S&P a publié, 27% du S&P ouais. pour être très précis. Quelle première impression par rapport aux publications précédentes, celles des trimestres précédents?
Ben, en fait, c'est un... Moi, je trouve qu'on voit plein de mauvaises nouvelles en termes de chiffres. C'est pas très bon et ça freine. Il y a les boîtes qui font un peu comme attendu et les boîtes qui font nettement moins bien. Mais c'est un marché en sentiment très fort. Intel, avec les moins 10 d'aujourd'hui, elle revient au niveau, elle était il y a 2-3 mois, elle n'est pas plus bas. Nvidia, qui est dans des marchés très proches, perd, l'a dit tout à l'heure, moins d'1%. Donc c'est des marchés où il y a un gros sentiment acheteur avec une réalité qui, elle, est un peu en deçà. Donc quand vous avez l'élastique comme ça, il y a deux manières de le lire. Soit vous dites les marchés veulent monter de toute façon et donc ne se préoccupent pas des mauvaises nouvelles. Soit vous vous dites il y a une distorsion entre là où sont les marchés, là où est la réalité, et à un moment, cet élastique va se rattraper.
La question, c'est de savoir quel côté l'élastique va craquer, va rejoindre l'autre. Est-ce que ce sont les valeurs qui résistent ou celles qui reculent, qui reviendront vers de nouveau plus haut, en tout cas qui remonteront vers la moyenne du marché? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on voit sur les publications de vrais écarts dans la façon dont les marchés sanctionnent. C'est-à-dire que quand il y a de bonnes surprises, on a de vraies belles hausses. Quand il y a des déceptions, là, on ne loupe pas les boîtes et elles sont lourdement sanctionnées. Il y a de vraies distorsions aujourd'hui encore sur le marché.
Ouais, mais... Intel, avec ses résultats, sont épouvantables. Ça devrait être plus bas que 27$ maintenant.
Oui, c'est ce que vous disiez, en effet. La semaine prochaine, les autres GAFAM, on parlait de Microsoft il y a un instant, Microsoft qui a publié mercredi.
Ouais.
Les quatre autres GAFAM vont publier leurs résultats la semaine prochaine.
Une grosse semaine. Ouais.
Meta, je crois que c'est mardi ou mercredi soir, Meta. Et jeudi soir, on aura Apple, Amazon et il en manque une. Et Alphabet. Voilà, jeudi soir, ce sera une très grosse semaine. Laquelle de ces GAFAM allez-vous particulièrement suivre, vous, Charles?
Alors, on va suivre les quatre parce que c'est des gros poids lourds qui tirent tous les indices, donc on est forcé de les suivre toutes avec attention. Il n'y en a aucune qui aura un exercice facile. La partie publicité, j'ai relu là tous les... Nous, on a une position sur Meta qu'on a un peu réduite justement là parce qu'on a un peu peur de ses résultats. On aime beaucoup la société sur le long terme. Mais j'irai écouter tout ce qu'ils disaient dans les trimestres précédents. Bon, ben ils disent le marché de la publicité ralentit, l'année un peu plus dure. Il y a eu une énorme boom en 2021. C'est toujours la même problématique en fait de cet énorme boost de demande en 2021. Et il se passe quoi après? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette 2021 record? Donc ça, je pense que c'est la problématique qu'on aura pour Facebook et qu'on aura pour Meta et pour Alphabet. Meta, il y a la partie... En plus, Metaverse, est-ce que les pertes... le marché sanctionne toujours l'investissement dans ce projet ou pas? Apple, vous avez TSMC, qui fournit tous les processeurs d'Apple, qui a publié il y a à peu près 15 jours et qui a dit on voit le marché des smartphones se ralentir de manière assez forte. Les dernières fois que TSMC a fait ça, ça s'est vu dans les résultats d'Apple. Donc nous, on avait pris un petit peu d'Apple en début d'année parce que c'était pas très cher. C'est remonté assez rapidement et on a fini par ressortir en se disant on va passer ces résultats-là parce qu'on n'est pas très serein dessus. Amazon, on en a déjà parlé. Moi, j'ai toujours été très dubitatif des résultats d'Amazon. Quel genre de croissance ils vont afficher maintenant avec un pouvoir d'achat qui est un peu attaqué par l'inflation?
C'est vrai, mais le cloud compte de plus en plus dans leur activité.
Oui, alors tout le monde
s'accroche. C'est leur première activité, en fait, le cloud, d'ailleurs.
Alors, c'est la seule chose qui est censée dégager de l'argent. Quand on regarde les résultats des divisions d'Amazon, faut savoir qu'Amazon classique, international et US et Canada a toujours perdu de l'argent, y compris pendant le Covid. C'est un point important à retenir, quand même. Et pour le cloud, j'ai toujours été assez suspicieux des résultats du cloud. D'abord, Amazon a aussi fait quelques modifications de ses règles comptables en 2018 et en 2021 en augmentant ses durées de dépréciation qui font apparaître des profits qui ne seraient pas là si on maintenait les mêmes règles. Et ensuite, qui est le troisième acteur du cloud? C'est Alphabet, qui est donc un très gros acteur. Qu'est-ce que Alphabet nous dit chaque trimestre? Je perds de l'argent sur le cloud. Ça me paraît très étonnant que dans un secteur B2B, le troisième player comme Google perde de l'argent et qu'Amazon en gagne beaucoup. Peut-être qu'Amazon en gagne un peu, mais en termes, vous vous dites, en théorie capitalistique normale, si vous avez le troisième player qui perd beaucoup d'argent, enfin qui perd de l'argent, le premier peut pas en gagner beaucoup. Donc je suis toujours très dubitatif sur Amazon. Je suis très curieux de voir ce qui se passera avec ces résultats.
Et donc jeudi soir, Amazon, Apple et Alphabet publieront, et mercredi soir, Meta publiera également. Ce sera une semaine très très GAFAM, hein, la semaine prochaine.
Exactement.
Et on essaie de vous apporter un coup d'avance à vous qui nous suivez chaque jour dans BFM Bourse. Juste un petit mot quand même, il faut en parler, ChatGPT. C'est le début d'une disruption majeure aussi au cœur des GAFAM. Femme au cœur de la tech, une disruption de plus qui fait que peut-être dans 4, 5, 10 ans, les grands acteurs du secteur ne seront pas ceux d'aujourd'hui ou seront encore plus ceux d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez cette disruption à venir de l'intelligence artificielle, vous, en tant qu'investisseur?
La réponse à ça, c'est qu'il faut des patrons de boîtes qui soient motivés dessus pour essayer de suivre cette tendance et de ne pas la rater. Donc c'est pour ça que je suis plus à l'aise avec quelqu'un qui est très critiqué comme Zuckerberg, qui investit énormément en se disant demain on sera plus en train de consulter des smartphones, mais ce sera un autre objet, une autre façon de faire, et donc faut qu'on soit positionné dessus, qu'avec des gens qui sont très en train de presser le citron au maximum d'aujourd'hui, comme Apple, qui sont beaucoup plus sur uniquement l'iPhone et que l'iPhone. Donc je pense qu'il faut suivre. Après, ChatGPT, bon, comme à chaque fois, il y a énormément de discussions et de buzz autour et tout le monde en parle. Ça a l'air extrêmement impressionnant. Il y avait un long interview du patron de ChatGPT et du patron de DeepMind, qui est la société sur le même secteur d'intelligence artificielle qui a été montée qui appartient à Google. C'est impressionnant, un peu inquiétant aussi. Les deux mettent quand même des bémols en disant que c'est des outils tellement puissants qu'il faut vraiment pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Donc les films futuristes inquiétants, ils les valident aussi. C'est pas totalement exclu. Mais après, en termes de valorisation boursière, demain, je pense pas que ça aura un effet. C'est pas ça qui va changer les. Faut pas payer une boîte, une fortune là en termes de multiples juste parce que ce concept arrive. Je sais plus quelle société a pris 100% hier. J'ai vu une petite boîte qui a pris ça parce qu'ils installaient ChatGPT. Oui. Bon, ça, on a déjà vu ça à chaque phénomène de mode. Généralement, ça se termine pas très bien.
Bien sûr, mais par exemple, vous laissez le bénéfice du doute à un groupe comme Meta qui actuellement a beaucoup de difficultés parce que peut-être que Meta aujourd'hui tentant d'affronter des vents contraires et dans lequel beaucoup moins de gens croient qu'il y a quelques années, peut-être que Meta est en train justement de travailler aux disruptions du futur et donc il faut y être présent, de même que certains choisissent d'être présents ne serait-ce qu'un tout petit peu sur je ne sais pas si le parallèle va vous plaire, sur les cryptos parce qu'on ne sait jamais, c'est un peu ça, l'idée sur Meta c'est on ne sait jamais donc on reste investi sur Meta, c'est votre philosophie.
Ouais. Alors je ferais vraiment deux parallèles à mon avis. Les cryptos, on est un peu à la fin d'un phénomène et je pense que ça va aller dans le mauvais sens, mais sur Meta, on a tous un exemple en tête, c'est BlackBerry. Alors les plus jeunes, quand vous leur dites BlackBerry, ils ne comprennent pas ce que c'est, mais Guillaume, on doit être à peu près dans les mêmes tranches d'âge. Quand BlackBerry était là, il était impossible d'avoir autre chose que BlackBerry. Tout le monde en avait, c'était obligatoire. La petite lumière rouge s'allumait quand vous avez votre message. Et quand les premiers iPhones sont sortis, même tout le monde disait ça, c'est rigolo, c'est un truc sympa, mais c'est pas pour les gens qui travaillent. Ouais. Bon, ça a été c'est disparu, on n'en a plus jamais reparlé. Donc je pense qu'il est important de se préparer pour la révolution future.
Le CAC 40, on vous le rappelle, il est 15h48, est en légère baisse. On est en train de limiter nos pertes parce que Wall Street vient de rebasculer légèrement dans le vert, même si Intel reste en très forte baisse. Le S&P à l'instant, allez, plus 0,04%. Est-ce que les publications européennes qui démarrent à peine, on est un petit peu en retard ici en Europe par rapport aux publications américaines, est-ce que vous pensez qu'elles seront meilleures ici en Europe qu'aux États-Unis? C'est l'impression qu'on a là, sur le tout début des publications européennes, plutôt plus de bonnes surprises qu'aux États-Unis.
Il y a un effet de change qui aide les Européens et qui pénalise les Américains. Donc ça joue. Après, moi, je pense, je suis de plus près le marché américain et je pense toujours que c'est le marché américain qui donnera la grosse direction des marchés comme chaque année parce que c'est très corrélé. Donc ça m'étonnerait que si les marchés américains partent pas bien, l'Europe tienne très longtemps. Surtout que si vous regardez le CAC, on est, il y a plus de baisse, il y a plus rien. En fait, si on est revenu au même niveau que les plus hauts.
Oui, presque. Donc, à 3-4% près, mais oui.
Voilà, en valorisation, même LVMH aujourd'hui, c'est des très beaux résultats, mais ça freine quand même assez fort en termes de croissance. Et à nouveau, on paye des multiples assez élevés.
LVMH a touché tout à l'heure un nouveau plus historique. Enfin, ça fait quand même quelques mois maintenant que l'Europe surperforme Wall Street. Vous dites que ça ne peut pas durer. Ça fait quelques mois que vous dites sûrement et que vous pensez que ça ne peut pas durer, mais ça dure quand même.
Je ne dis pas que ça ne peut pas durer. Tout peut arriver. Hein. On a vu 2021, tout est possible. Mais je pense que s'il faut faire un pari en gestion, je pense qu'il vaut mieux toujours jouer plusieurs scénarios avec des poids un peu différents. Je me dirais que ça va pas. Je parierais sur le fait que ça va pas durer très très longtemps.
Charles Monod avec nous aujourd'hui, président de Monocle Asset Management. Merci Charles de nous avoir accompagnés en direct et pour
merci Guillaume
notamment analyser Intel qui souffre énormément aujourd'hui. On peut regarder ce titre Intel en direct sur le marché américain. Alors que on vous le disait, hein, les grands indices américains viennent de rebasculer très très légèrement dans le vert. Intel recule toujours lui de plus de 8%. Merci Charles. Le CAC 40 est en petite baisse, mais peut-être sur le point de rebasculer dans le vert, à l'image de Wall Street. La plus forte hausse à Paris, Société Générale gagne plus de 3%. Et puis Airbus, au contraire, signe la plus forte baisse, avec un certain nombre de dégradations depuis quelques jours d'analystes et de brokers. Aujourd'hui, c'est Jefferies qui dégrade Airbus. Et d'ailleurs, il en est question hein, sur notre site BFM Bourse aussi. Vous pouvez retrouver d'ailleurs quelques lignes hein, sur ce sujet des analystes et des brokers qui dégradent un petit peu Airbus depuis quelques jours. Et aujourd'hui, donc, ce titre est lanterne rouge du CAC, moins 3,3%. Si vous souhaitez, bien sûr, vous informer, compléter votre analyse des marchés, notre site disponible 24/24, bien sûr, et les analyses, les articles de Julien Marion et Sabrina Sadghi, BFM Bourse, à vos côtés. Tout de suite, valeur ajoutée, on va parler de valeur en plus, une idée de valeur en plus, si vous souhaitez diversifier davantage vos portefeuilles. C'est parti.
BFM Business, BFM Bourse, valeur ajoutée.
C'est notre rendez-vous quotidien aux alentours de 15h50. Une idée de valeur en plus. Paul Hédon est avec nous pour Gay-Lussac Gestion. Bonjour Paul.
Bonjour Guillaume.
Vous nous faites découvrir aujourd'hui un titre sur lequel vous êtes d'ailleurs à l'achat, Amadeus Fire. Je ne sais pas si je le prononce bien, Paul.
Oui, c'est ça.
On est bon.
Alors, Amadeus Fire, c'est le Fire, c'est le leader du recrutement en Allemagne sur les métiers spécifiques de la finance, de la fiscalité et de la banque. Alors nous, chez Gay-Lussac Gestion, c'est vrai qu'on apprécie le dossier pour plusieurs raisons. Premièrement, on est face à des avantages concurrentiels qui sont notables. C'est le leader, le numéro un sur son marché. La société est vraiment une référence depuis un peu plus de 35 ans et il dispose d'un beau vivier d'entreprises clientes, ce qui va attirer mécaniquement davantage de candidats à l'emploi susceptibles de trouver plus aisément. Donc ce nombre de candidats croissants renforce encore plus l'attrait des entreprises clientes vers Amadeus Fire comme prestataire, qui attire de nouveaux candidats, ainsi de suite. Donc là, on est vraiment face à un cercle vertueux qui s'est mis en place. Par ailleurs, ces deux viviers d'entreprise et de candidats sont assez difficilement réplicables, parce que le groupe est quand même présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à savoir les formations diplômantes, les placements temporaires, les placements permanents, et même du consulting. Donc il en résulte au final des taux de placement qui sont vraiment, vraiment supérieurs à la moyenne du marché. Deuxièmement, On est face à un contexte qui est particulièrement porteur. Tout d'abord, ici, le marché cyclique et concurrentiel, vous savez, de l'intérim dans l'industrie n'est pas du tout ciblé. Je rappelle, c'est vraiment sur une niche pour les emplois dans la finance. Et la croissance devrait être amenée à se poursuivre cette année, même dans ce contexte de récession modérée. Par ailleurs, un point qui est quand même assez intéressant de garder à l'esprit, c'est que l'Allemagne connaît depuis un moment une réelle pénurie de compétences et d'employés qualifiés, en raison surtout de l'évolution démographique et de la population, vous savez, qui est vieillissante et qui sort progressivement de la vie professionnelle. Pour l'anecdote, selon la Chambre de commerce et d'industrie allemande, fin d'année dernière, donc fin décembre 2022, plus d'une société sur deux dans les services avait du mal à trouver du personnel qualifié. En fait, par le passé, c'est le cycle économique vraiment qui était le facteur dominant pour expliquer la demande. Aujourd'hui, c'est clairement la démographie. Les candidats sont boulot d'étranglement. Ça, c'est une demande qui est vraiment solide du côté des entreprises. Donc, nous, dans ce contexte, on est vraiment confiant sur la proposition de valeur d'un acteur comme Amadeus Fire.
Un doute est néanmoins, ou peut-être une question qui demeure sur l'endettement de ce groupe Amadeus Fire.
Oui. Alors, justement, nous, de notre côté, en fait, on s'attend à vraiment une nouvelle allocation du capital à venir. Pourquoi ? Parce que après des opérations de croissance externe sur l'éducation et les formations qui ont lieu en 2019-2020, le groupe a vraiment priorisé depuis le remboursement de sa dette qui avait été levée pour payer ses acquisitions. Aujourd'hui, la dette devrait vraiment être totalement payée d'ici fin 2023. À titre d'exemple, aujourd'hui, on doit être pour fin 2022 autour de 1 fois net dette EBITDA. Donc, pas trop de sujets sur la dette. Et donc, ce remboursement de la dette va venir cette année, ce qui laisse donc de quoi revenir après une politique de retour à l'actionnaire qui devrait être très avantageuse. D'accord. Et qui était déjà connue par le passé.
Ce groupe, ce titre sur lequel vous êtes donc à l'achat aujourd'hui, objectif de cours 180 euros, Amadeus Fire. Paul Hédon avec nous pour Gay-Lussac Gestion. Merci beaucoup Paul, on vous souhaite une bonne fin de séance.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et avant le week-end, des idées pour diversifier aussi vos investissements, pourquoi pas dans des œuvres d'art. Comment faire d'une œuvre d'art un bon placement ? Arnaud Dubois nous rejoint, le fondateur de Arnaud Dubois Associates. Oui. Bonjour Arnaud.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue sur le plateau. Vous revenez d'ailleurs de la foire d'art Genève qui a débuté mercredi. Cette foire lance le cycle annuel des foires d'art contemporain. Quel conseil donneriez-vous à un collectionneur ou un investisseur qui s'intéresse aux œuvres d'art, Arnaud ?
Alors, premier conseil, je pense le plus important, c'est d'aller vers les œuvres, d'aller les rencontrer, aller dans les musées, aller dans les galeries, découvrir les pièces et rencontrer les artistes si possible. Ensuite, et probablement le second point le plus important, c'est essayer de comprendre les motivations d'acquisition. On n'achète pas les œuvres de la même façon si c'est pour faire un placement ou si c'est pour se faire plaisir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut conjuguer placement et passion, mais c'est pas toujours l'évidence.
Comment acheter une œuvre d'art, du coup, dans l'optique d'en faire un placement en étant très pragmatique ?
Alors, de manière très pragmatique, il faut considérer les œuvres d'art comme vous le faites sur n'importe quel placement. C'est-à-dire que vous envisagez votre œuvre d'art à l'aune de la sécurité de l'actif, de la liquidité de l'actif, de son potentiel de rendement. Dans ce marché, vous avez deux façons de gagner de l'argent. Soit vous spéculez sur les marchés à venir, et en fait, c'est pas un gros mot, spéculer, on le fait tout sur le marché immobilier, sur les marchés financiers. Soit vous battez le marché à l'achat. notre travail va consister à acheter moins cher que tout le monde. C'est probablement la meilleure façon de ne pas se tromper.
Et plus précisément encore, Arnaud, je veux réaliser un bon placement aussi à travers ce monde de l'art. Quelle œuvre ou quel type d'œuvre est-ce que je dois choisir ?
Alors, permettez-moi, Guillaume, de revenir un petit peu sur la segmentation du marché. D'abord, le marché de l'art, c'est un marché qui est beaucoup plus démocratique qu'il n'y paraît. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Vous avez un peu plus de 75% du marché de l'art, des œuvres d'art, qui s'échangent à moins de 1 000 $. Donc 75%, ça fait plus de 7 pièces sur 10 qui s'échangent à moins de 1 000 $. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît. Si je continue dans la segmentation du marché, vous avez 90% des œuvres qui s'échangent à moins de 50 000 $. C'est pas du tout un marché de nantis. Monsieur, madame, tout le monde peut s'acheter des œuvres d'art à condition d'avoir un tout petit peu d'argent de côté. La difficulté, c'est que ces 90% du marché de l'art en volume représentent un peu moins de 10% du marché de l'art en valeur. Si on regarde, et c'est Pareto, comme à chaque fois et dans tous les marchés, si on regarde sur la partie, la tranche haute, vous avez un peu moins d'1% du marché de l'art qui concentre plus de 60% de la valeur mondiale. Donc, en fait, si on doit se concentrer sur un artiste, probablement sur une tranche ou débuter son acquisition à partir de 50 000 $. Si je peux me permettre de vous donner aussi. Ouais. Pour faire un investissement, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais regardez, si on doit créer un parallèle dans l'immobilier, est-ce que c'est plus rassurant pour vous d'acheter un bien immobilier pas très cher dans une ville un petit peu éloignée que d'acheter finalement un bien immobilier, on va dire, dans un marché qui va être plus international, dans une ville plus internationale et sur un bien moins atypique? C'est à peu près la même chose. Toujours dans la segmentation de marché, qui est maintenant la segmentation, j'allais dire, par artiste, vous avez une œuvre sur deux qui est vendue, qui a été réalisée par un artiste américain et qui a été réalisé après 1945. Un peu plus de 90% du marché de l'art est fait sur des œuvres réalisées après 1870. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le marché de l'art ancien, d'abord, il y a peu de salut, il y a peu de transactions, c'est dur à acheter, c'est dur à vendre. Par contre, dans le XXe siècle, c'est là que vous allez avoir davantage d'explosivité pour pouvoir faire un bon placement.
C'est plus liquide.
C'est beaucoup plus liquide. Et si on doit résumer, donc, peut-être plus de 50 000 $, un marché peut-être plus occidental. Et voilà.
Et en termes de fiscalité, comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que si on veut faire d'une œuvre d'art un placement, on imagine un jour la revendre. Comment ça se passe à la revente en termes fiscaux ?
Alors, on n'a pas d'avantage d'abord à détenir une œuvre d'art fiscalement, outre le fait qu'elle était autrefois, elle n'avait pas besoin d'être déclarée, de rentrer dans l'assiette taxable de l'ISF. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de déclarer une œuvre d'art. Possession vaut titre en fait de meubles. Donc, pareil, l'IFI, la question ne se pose pas. Au moment de la revente, la fiscalité en France est très attractive, mais attention, ce n'est pas la plus attractive du monde, ni la plus attractive en Europe. Par exemple, en Italie, vous pouvez mettre 100% exonéré sur les œuvres d'art. En Europe, et en France, pardon, vous avez le choix, le contribuable français a le choix, au moment de la revente, à payer soit 6,5% sur le prix de vente, c'est ce qu'on appelle la taxe forfaitaire, soit 36,2% qui est le régime général des fiscalités sur la plus-value.
La prochaine manifestation artistique, là, vous revenez de Genève, donc
Reviens de Genève pour la Foire d'Art Genève et je pars demain pour la BRAFA, Bruxelles-Talfer, pardon, probablement des plus anciennes et prestigieuses foires au monde.
Arnaud Dubois Associates, Arnaud Dubois qui l'incarne, bien sûr. Merci Arnaud d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Bon retour, pourquoi pas faire de l'art un placement et surtout à la veille du week-end, on aime bien vous apporter des idées de diversification et pourquoi pas zoomer sur ces placements plaisir. Dans un instant, beaucoup de plaisir aussi à retrouver Étienne Braque depuis la Tour Euronext, il nous attend. On va vous rejoindre Étienne alors que le CAC 40 tente de se stabiliser, on n'est plus qu'en baisse de 0,1%. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.